Vous êtes chef d'entreprise ou conjoint d'une entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Savez-vous que vous contribuez chaque année pour bénéficier d'un financement de vos formations? Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC. RMC.
On y croit, à fond.
Bah parce que c'est les meilleurs. On a gagné il y a 4 ans. Il n'y a pas de raison.
On y croit cette année. Elle est pour nous encore.
Champion du monde.
Ensemble avec Giroud.
Les grandes gueules du sport.
Allez les bleus. Allez les bleus.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 en France, midi 07 au Qatar, dispositif exceptionnel aujourd'hui autour du 8e de finale entre la France et la Pologne. Vous n'allez rien manquer sur notre site rmcsport.fr, évidemment toutes les dernières informations sur notre antenne avec des analyses, les informations compo, bref, les enjeux de ce 8e de finale. Merci de nous écouter, merci évidemment de votre fidélité. Les grandes gueules du sport tous les samedis et dimanches de 9h à midi avec ce matin Christophe Cessieux, Stephen Brun, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski et Jean-Louis Tour qui fait son retour, notre spécialiste bleu, notre homme, notre grande gueule en direct de Doha au Qatar. Jean-Louis Tour, tu vas au stade ce soir en plus?
Ah oui, bien sûr, parce que le match, on sera tous au stade avec Jérôme Roten, bon, Jeannot Séguier évidemment, Arthur Perrault qui sera sur la pelouse, et on va se régaler après-midi spécial autour de l'équipe de France, et effectivement, on sera au stade.
Super. RMC, Coupe du Monde 2022.
Et avant de débattre sur Kylian Mbappé, on va justement vous donner les dernières informations qui entourent cette équipe de France. Loïc Braillet, l'un des suiveurs, est avec nous. Salut Loïc. Loïc une fois. Loïc deux fois. Loïc adjugé, c'est viré. C'est bon, Loïc est avec nous. J'ai entendu.
Oui, je suis là. C'est bon, je suis là, j'y sais. Je suis là.
Bon Loïc, les informations compo. Bon, il devrait pas y avoir de surprise pour ce huitième de finale face à la Pologne.
Non, pas de surprise à attendre. Effectivement, retour aux fondamentaux pour Didier Deschamps après la bouillie face aux Tunisiens. Il va s'appuyer sur ce qui a fonctionné finalement en début de compétition et notamment face au Danemark. La cheville gauche de Théo Hernandez qui souffrait d'une très légère contusion ces derniers jour va bien. Il était là hier à l'entraînement, tout comme Varane, qui va poursuivre lui sa montée en régime en défense centrale. Et les quatre joueurs à vocation offensive, bien sûr, également. Lloris dans les buts, 142e cap ce soir. Les quatre défenseurs de droite à gauche, Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez, donc les trois milieux, Griezmann, Tchouaméni, Rabiot, avec toujours ce rôle un peu hybride pour Griezmann. Et donc en attaque, Dembélé, Giroud, Mbappé. Que du classique ce soir attendu.
Merci beaucoup Loïc Braillet. On te retrouve à partir de 11h pour d'autres informations autour de cette équipe de France. N'hésitez pas à aller sur rmcsport.fr pour tout connaître. On va débuter cette nouvelle heure d'émission avec cette citation de Jorge Lavelli qui a dit un jour: à force de provoquer le diable, on finit par le devenir.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le troisième but de Mbappé.
Jack, tu sais pas jouer, Jack.
Je me suis jamais donné de limite. Je veux pas m'empêcher de me mettre une barrière.
T'es mauvais.
Et l'ouverture du score de Kylian Mbappé.
Mahmoud, vous êtes à un âge où il faut changer à capitaliser. Vous avez quel âge? Votre âge?
Quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau.
Oui, mais c'est Cajun et il est dangereux.
Mbappé. Kylian Mbappé.
Vous êtes pas content?
Triplé. Heureusement, il y a Kylian Mbappé.
Jeannot Rességui au commentaire, évidemment, de ce match ce soir, cet après-midi, entre la France et la Pologne, Alban Azaïs à la production. C'est une petite phrase, un bon mot qui n'est pas passé inaperçu. Mercredi soir, après la qualification historique de la Pologne pour les huitièmes de finale, l'un des héros polonais, le gardien de but, Szczęsny, qui a déjà arrêté deux pénaltys dans ce mondial, se présente en zone mixte face à notre reporter Florent Germain. Écoutez bien, c'est fugace. Fugace, hein, pas fougasse. Fougasse, ça n'a rien à voir, c'est du pain gras avec des olives.
Le père fougasse.
Là, c'est fugace. Voilà, écoutez bien.
They are the big favorites. They're one of the best teams in the world. But we're here and we're going to try to do our best to give them a hard time.
And what's the key to stop Mbappé?
Myself.
Et quelle est la clé pour arrêter Mbappé? Moi-même, la phrase donc de Szczęsny. La musique qui fout les jetons et cette question. Provoquer Kylian Mbappé, est-ce audacieux ou dangereux? Christophe Cessieux.
Plutôt audacieux.
Pascal Duprat.
Audacieux.
Jean-Louis Tour.
Audacieux, même si on ne peut pas parler de provocation non plus, il ne faut pas non plus exagérer.
Ok, très bien. Il remet en cause l'éditorial de cette émission parce que c'est tellement mal. Mieux chez Rotten sans flamme. Il y a pas, non, mais il n'y a pas de problème.
Mais est-ce que vous avez un compte WhatsApp chez Rotten sans flamme ou pas?
Ah, pas sûr.
Non, même pas. On ne se parle pas, nous.
Jean-Louis Tour.
Moi, c'est Stephen Brun.
Je le dire, mais je peux le redire. Hein. Ça va, toi, sinon?
Voilà, comment j'ai été déboussolé. Voilà, super. Stephen.
Moi, je suis sur la même ligne de conduite que mon ami Jean-Louis Tour. Ah, voilà. Voilà. C'est pas une énorme provocation, mais je vais dire audacieux.
T'inquiète pas, j'ai bien compris le petit manège. J'aimerais bien faire l'émission et tout ça.
Nous, on a un groupe WhatsApp avec Stephen.
Sarah Pitkowski.
Audacieux.
Tout le monde est sur le côté audacieux.
Mais t'as pas demandé à Pascal?
Mais si, on l'a demandé. Bah, si. Ou pas cette émission, Sarah? Mais oui, on a demandé à Pascal. Tout le monde est pour l'audace. Jean-Christophe Drouet, dangereux pour moi. Je vais vous affronter et j'ai aucun problème avec ça. Christophe.
Non, mais vas-y, comment? Parce que tu penses que c'est dangereux.
Ah, moi, je pense que c'est dangereux de la part du gardien polonais. Bah, pour la Pologne, évidemment. Je pense que c'est dangereux, pas pour Mbappé, évidemment, mais pour le gardien polonais. Et pour une simple et bonne raison, c'est que Kylian Mbappé marche à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il a vu forcément cette phrase dans la presse, et je suis persuadé que sur le terrain, il va y penser. Je suis persuadé qu'au moment où il va marquer un but, peut-être un doublé, ce qui ne m'étonnerait pas.
Il va lui faire un signe, un truc.
Je sais pas s'il lui fera un signe, mais peut-être qu'en conférence de presse d'après-match, s'il se présente, il n'a toujours pas parlé depuis le début du mondial, mais en tout cas dans sa tête il y pense et ça mais j'en suis convaincu qu'il se nourrit de ça, il n'a pas besoin
d'une phrase de Szczęsny pour savoir l'importance d'un huitième de finale, pour savoir qu'il doit être bon, pour savoir qu'il doit marquer. Il s'en fout. Szczęsny, il y a un mois il était avec la Juve, il a pris une filoche d'Mbappé au bout de 13 minutes. Je suis pas sûr qu'Mbappé ça lui fasse chaud ou froid que Szczęsny dise. Et puis Szczęsny est dans son rôle, c'est un gardien qui est en chaleur depuis le début de la compétition. C'est le gardien de but de la Pologne, et puis il est pragmatique. C'est gardien de but, c'est le dernier rempart. Donc oui, lui, il fait partie intégrante pour stopper Kylian Mbappé. Je vois pas ça comme une énorme provocation. Tu poses la question à un gardien qui est en feu depuis le début et question de ses forces en disant moi je vais tout faire pour stopper Kylian Mbappé. Là, je trouve qu'on en fait un pataquès pour pas grand chose.
Vous l'avez entendu, Kylian Mbappé, il y a un problème. Il y a quelque chose qui va pas, doublé derrière, triplé derrière. Et ça s'est souvent vérifié dans sa carrière. Et moi, je pense que Kylian Mbappé, il pense à ça. Et c'est souvent ce qui fait les grands champions, c'est-à-dire de marcher à ce genre d'ego, ce genre d'orgueil.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que pense Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé est muet sur cette Coupe du Monde. C'est quand même la seule star internationale de cette Coupe du Monde qui ne s'est pas exprimée, qui n'a pas dit le moindre mot depuis le début de la compétition. Donc si tu arrives à rentrer dans son cerveau et savoir ce qu'il pense, bah t'es très très fort, mon JC.
C'est bon signe, parce que Kylian Mbappé, donc vous l'avez dit, il est muet sauf devant le but, donc c'est ce qui nous intéresse. Et pour revenir à Szczęsny, en fait oui, je suis absolument d'accord avec Stephen, il est dans son rôle, c'est le gardien cet après-midi de la Pologne. Donc qui mieux placé que Szczęsny pour mettre à mal l'efficacité d'Mbappé? Bah lui-même, et il se trouve qu'il a confiance en lui. Bah c'est le propre du très très grand footballeur de haut niveau, c'est d'avoir confiance en lui. Et le gardien de la Pologne aujourd'hui, tout justifie qu'il ait confiance en lui et il a envie de défier Mbappé. Il l'a dit sous le ton de la boutade, mais il l'a dit quand même, ça va rien changer. Celui qui sera en face d'Mbappé, en tout cas le dernier rempart, c'est bien Szczęsny. Donc il a eu raison de balancer cette punchline qui est absolument logique.
Ok, c'est ni audacieux ni dangereux, on n'a pas bien compris la position de Jean-Louis Tour. Jean-Louis.
Non, la position, c'est ce qu'a dit Stephen tout à l'heure. On va pas en faire tout un pataquès non plus. C'est pas comme s'il y avait eu un chambrage, comme avait fait Haaland lors d'un Dortmund PSG, où après avoir marqué au match aller, il s'est assis en tailleur, en regardant les Parisiens, et puis il en a joué sur les réseaux sociaux. Là, oui, c'est du chambrage. Ça peut les titiller, surtout s'il y a un match retour, ils ont envie de répondre derrière. Là, c'est pas du chambrage. C'est déjà un truc factuel, comme a dit Pascal. C'est lui le dernier rempart. Et puis, comme a dit Stephen, et donc, il a marqué, non pas un, mais trois buts, sur le match aller et retour.
Il jouait pas au match aller. Il était blessé, c'est le gardien remplaçant. J'avais cet argument-là, mais j'ai checké les compos, j'ai vu qu'il était pas là.
Bravo, Stephen.
Trop bon, bravo. Comment tu l'as piégé. Bravo.
Reste sur la
Il y en a juste un qui a perdu son poste sur la cellule équipe de France. C'est pas grave.
Sarah Pitkowski.
Moi, je trouve qu'il sera totalement audacieux s'il est capable de faire un petit pari face à Mbappé, si pénalty il y a, comme il l'a fait avec Messi. Là, il sera audacieux.
Il faut qu'il étire les pénaux, Mbappé. On ne sait pas encore, c'est pas sûr.
C'est clair.
Mais franchement, c'est vraiment là on est vraiment sur du trash talking.
Non, c'est vraiment une réponse très spontanée.
À quel moment j'ai dit que c'était du trash talking? Pas du tout. C'est juste que il y a un bon mot et je le disais, c'est un bon mot.
C'est une provocation.
Ouais, mais c'est une réponse du tac au tac. Il n'a pas réfléchi. Tu vois quand la question est posée, il répond du tac au tac parce que ça doit être
spontané.
Il a l'air d'être quelqu'un d'être très sûr de lui, très chambreur. Je me mets en avant et puis comme il est en surchauffe, tu te permets des choses. Que tu te permets
mais
pas.
C'est quand même une vérité. Quel est le principal rempart pour stopper un attaquant
Parce qu'on essaie d'analyser de manière pragmatique.
Est-ce que ce qu'aurait été un vrai débat, c'est si c'est Glick qui avait dit c'est moi. C'est moi le
dernier. Là,
on aurait pu éventuellement tu vois, faire un vrai débat.
Non, on aurait sorti la boîte à rire. Voilà,
oui, tout Glick a le même physique que Jean-Louis. Bon, là, ça aurait été quand même un peu.
Il reprend quatre fois du dessert, on passe pas Jean-Louis. Là, on reconnaissait le débat.
Je suis toujours sur la fougasse. Hein,
j'imagine. Non, mais moi, je suis persuadé, je reste persuadé, malgré ce que vous pensez et vos arguments, qui sont bons aussi. Mais c'est que c'est dangereux de jouer sur ce personnage
non, mais
que Kylian Mbappé parce que je trouve
que c'est beaucoup.
Je trouve
qu'il croit pas une seconde. Il croit pas une seconde, essaie de faire vivre le débat. À un moment on va se dire les choses, parlons d'autre chose, parlons d'autre truc de la Coupe du monde, mais voilà.
C'est ce qui se passe Jean-Louis, c'est que j'ai vu jeter un œil au chrono, j'ai dit il reste
10 minutes. Non mais on va faire autre chose.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est pas grave, j'y sais franchement, parlons d'autre chose. Alors est-ce que il y a de la ferveur en France autour de la Coupe du monde? Est-ce qu'il se passe quelque chose aujourd'hui? Racontez-moi ça, je sais pas,
mais là insister sur son débat, on lui a dit hier soir que c'était quand même pas terrible.
Oui. Mais alors, sur le groupe WhatsApp.
C'est pour ça qu'on a été perdu dans les WhatsApp.
Maintenant,
en fait.
Il se débrouille tout seul, quoi.
Attendez, pourquoi on fait un groupe WhatsApp? C'est dingue.
J'ai aucun problème pour me débrouiller tout seul. J'entends aussi vos arguments et vos sarcasmes. Il n'y a aucun souci avec ça. On va arrêter ce débat sur provoquer Kylian Mbappé. Est-ce audacieux ou dangereux? Moi, je vous dis que c'est minimum doublé aujourd'hui parce que justement, et il va lui remettre dans la figure. Mais bref, on en parle.
Il aurait mis sur doublé quoi qu'il arrive.
Vous,
il l'a même pas vu, Mbappé.
S'il n'y avait pas eu cet éclat de Chesney, Mbappé n'aurait pas marqué contre la Pologne.
Non, c'est pas ça. Je le dis, ça va lui donner une.
Il n'a pas besoin de motivation. C'est le final de la Coupe du Monde, Jean-Christophe.
Il y aura un but de plus de la part d'Mbappé parce qu'il a lu cette petite phrase, selon toi.
Je pense que ça va le titiller, ouais.
Et qu'il je pense que Chesney, il pense réellement qu'il va faire barrage à Mbappé. Il a bien raison de le penser. Parce que justement, ses performances l'autorisent à avoir ces pensées-là. Il était très bon si la Pologne est qualifiée. C'est parce que Chesney dans les buts.
Sinon, Jean-Louis, on a vu un article chez le coin. Enfin, l'équipe, il y a vraiment de l'alcool à gogo au Qatar ou pas?
Tu peux en trouver, oui. On peut parler de ça si tu veux, oui.
Non.
Si tu veux, on peut en trouver, on en trouve, oui, effectivement.
Alors, je voudrais justement clore ce chapitre parce que c'est important que les auditeurs comprennent évidemment quand un débat ne marche pas. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Je m'excuse pour vous, les auditeurs, parce que les GG n'ont pas voulu jouer le jeu ce matin.
C'est notre faute.
Il y a aucun problème. Je voudrais juste terminer ce débat.
C'est audacieux notre réaction.
Pour clore ce débat, je voudrais juste vous faire écouter Milik qui a parlé de Kylian Mbappé, là c'est une boutade et je voudrais quand même vous le faire écouter comme une sorte de bonbon et ensuite pendant les 3 minutes qui nous restent, chacun pourra évidemment parler du sujet qui l'intéresse à cette heure-là. Milik sur Kylian Mbappé.
Jak się bronić przed Kylianem Mbappé? Myślę, że musimy chłopakom ten skuter.
Il nous faudra être rapide. Je crois qu'on va prendre un scooter pour le rattraper. C'est difficile de jouer contre un des meilleurs joueurs du monde. Il nous faut jouer en tant que groupe, penser au collectif, car personne ne pourra l'affronter individuellement.
Żadna osoba indywidualnie nie jest w stanie go teraz zatrzymać.
Et je viens de trouver un autre débat car je suis une boîte à idées évidemment et un très bon producteur d'émissions. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Il faudra un scooter pour le rattraper. Vrai ou faux?
Audacieux ou dangereux?
Steve Duprat.
Vrai,
ouais. Pascal Duprat.
Faux.
Là, il y a débat, vous voyez. Jean-Louis Tour.
Pourquoi un scooter? On peut élargir aussi à d'autres moyens de transport.
Et puis on peut élargir aussi, parce que si c'est Glick sur un scooter, ça avance beaucoup moins vite que si c'est Sarah.
Christophe Cessieux.
Peut-être.
Peut-être.
Ah oui.
bonne réponse.
Ah oui, à flasher à 33 km/h depuis le début de la Coupe du Monde, la pointe de d'Mbappé.
Mais il faut un
mais à 50 cm3, tu verras.
Avec un pot ninja.
J'ai envie de dire qu'une trottinette électrique pourrait suffire.
Non, c'est bridé à 25.
Ah non, pas les trottinettes d'Hidalgo, parce qu'elles vont pas vite.
Hein. Mbappé, il va plus vite qu'une trottinette.
Bah, bien sûr, sauf si elle est débridée.
Sauf si elle est débridée.
Couper le petit fil là, tac.
surtout la capacité d'accélération qui est importante chez Mbappé.
Bien sûr.
En combien de temps il va à 33 km/h?
Combien de temps il met? Parce que tu vois, il y a des voitures qui font 0 à 100 en 3,7 secondes. Ouais. Combien Mbappé pour aller de 0 à 33? Ça, c'est important aussi. Parce qu'il y en a qui vont à 33, mais qui mettent plus de temps qu'elle à 33. Et il y en a d'autres qui vont à 33 et qui mettent moins de temps.
Alors, j'ai un problème mathématique d'ailleurs
qu'un problème mathématique là, tu crois? Il n'y a pas d'autre problème?
Il fait de la vie.
Si les frères, s'il y a Jacques,
Lumière,
Paul et Michel qui prennent leur bain en même temps,
oui. Okay.
Qu'ils font couler le bain pendant,
dans une baignoire,
évidemment. Un bain tu prends aujourd'hui, une baignoire. Que tu fais couler ce bain pendant à peu près 1 minute 15.
Ouais.
Okay. À quel débit?
Déjà, moi je trouve qu'ils se lavent en même temps, c'est un peu dégueulasse.
Ouais.
Mais ça, c'est
mais ça fait les économies d'eau.
C'est pas faux. Allez, on va passer à autre chose, évidemment. Vous voulez pas forcément nous parler de Kylian Mbappé. Jean-Louis, nous te tenons et tu seras avec nous pour un débat sur Hugo Lloris qui, j'espère,
va
réinvité.
Il est réinvité.
On t'envoie un WhatsApp.
Cette ambiance.
Ce sera un vrai débat ou ce sera JT qui rame pour faire un débat?
Jean-Louis, cette ambiance au Qatar, est-ce que tu peux nous en parler à l'approche de cette rencontre?
Bah, l'ambiance au Qatar autour de l'équipe de France, hormis quelques supporters français qu'on a pu croiser, quelques maillots, on peut pas dire que ce soit débordant parce qu'on a un élément de comparaison avec des communautés de supporters absolument dingues comme les Argentins hier soir. Tu peux pas faire un pas dans Doha sans croiser des Argentins. On espère qu'on sera à la hauteur. On sait qu'on ne le sera pas parce que quoi qu'il arrive, on est quelques milliers alors qu'ils étaient quelques dizaines de milliers. Mais voilà, on espère quand même qu'il y a un vrai contingent français qui vienne supporter les Bleus et qu'on les entende dans le stade. L'avantage, c'est qu'en face, en termes de supporters, il n'y a pas grand chose non plus avec la Pologne.
Je lisais 3000 supporters français, 1500 supporters polonais aujourd'hui, hein. C'est voilà. Qu'on racontait hier, ça fait pas des.
Il y avait 40 000 Argentins, Argentine-Mexique.
Les Argentins, il y a incroyable à la fin, la célébration Messi devant le.
Ils ont des moyens quand même, hein, parce qu'aller de Buenos Aires jusqu'à Doha,
après, là-bas. Tu sais, Christophe, on parlait hier de la passion en Argentine.
Ouais.
Il y a des gens, ils sont tellement amoureux que je pense qu'ils font les économies.
Ils font les économies
pour pouvoir justement se payer une Coupe du Monde et pour aller supporter la Biceleste. Ça coûtera un peu moins cher dans 4 ans avec cette Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Ça dépend pour qui, un peu moins cher.
Tu parlais des Argentins.
Ah, des Argentins, bien sûr.
Pour d'autres, on dit. Oui, pour l'Australie, c'est un peu plus cher, oui. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci beaucoup, Jean-Louis, d'avoir été avec nous.
Allez,
légende, pas légende, Hugo Lloris, avec ses 142 sélections. Vous n'êtes pas d'accord, les GG, il y aura un vrai débat. Et évidemment, tout ce que vous voulez dire sur Kylian Mbappé, c'est qu'il va marquer et on a envie qu'il nous rende heureux. On se retrouve dans quelques instants. Une parenthèse dans cette vie de Coupe du Monde avec un homme heureux, signé Pierre Amiche. Très heureux. Il a
heureux quand il parle d'autre chose que de foot.
Le retour de Tyson Fury hier soir. Il va venir nous en parler. Et dans une vingtaine de minutes, restez bien avec nous. On reviendra sur la victoire notamment de l'Argentine face à l'Australie. Et puis des nouvelles de Neymar également. Ce sera le zapping du mondial. A tout de suite sur RMC. Allez,
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h30, on est de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi, journée exceptionnelle évidemment sur RMC avec ce match, ce 8e de finale entre la France et la Pologne à partir de 16h, Argentine. Pays-Bas, ce sera le premier quart de finale et ce sera vendredi prochain. On va parler de l'Argentine d'ailleurs dans une dizaine de minutes dans le zapping des GG avec Lionel Messi qui a guidé les siens vers les quarts de finale. Tous les dimanches à 11h, à 10h30, c'est l'heure de faire entrer Pierre Amiche.
RMC.
Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Un homme heureux.
Je suis tellement content, content, content.
Pierre Amiche.
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors pourquoi heureux aujourd'hui?
Parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a Tyson Fury aussi. Et ouais, hier c'était le retour du Gypsy King après 9 mois d'une retraite bien méritée. Tyson, l'immense Fury, était de retour. J'aurais pu faire mon sucré, dire que c'était un menteur. Parce que rappelez-vous, il nous avait joué la chanson du boxeur fatigué qui raccroche. Il avait fait un dernier combat, puis il avait fait ses adieux, promettant de cramer pour nous l'argent qu'on n'aura jamais. Et même si personne n'y croyait, j'avais chialé, tout le monde avait chialé. Et puis à la surprise, pas pas général du tout. Bah, elle était de retour hier. Hier soir, justement, 22h20. Bienvenue dans un monde parallèle. Dès la prise d'antenne, c'est ambiance cuir moustache. Il y a deux géants en slip, Sweet Carolina, plein badin. Un stade qui utilise plus de laser que Jean-Michel Jarre. 22h30. Ça y est. C'est déjà un sommet du mauvais goût. Tout est laid. Je me régale. Je suis chez moi. C'est ma zone de confort. Il n'y a pas une couleur qui s'accorde avec une autre. Il n'y a pas une matière normale. Même l'éclairage est complètement délirant. T'es épileptique. T'es mort avant le combat. Pam! Derek Chisora arrive. Un lion de mer à moustache de 40 piges. Cantre comme un dictateur africain. Il a une cape style Louis XVI avec Hermine et strass vert. Il arrive sur du Bob Marley. Oui. Oui, Sarah. C'est très moche. 22h37. Tyson Fury débarque. Il est plus fit que Jaja et plus fit surtout que ses derniers combats. Mais il n'est pas plus beau qu'avant. Il entre dans un peignoir rouge rubis, colpelle à tarte dorée, serviette blanche et bonnet à pompons orange. Il a totalement lâché la rampe niveau dégaine. C'est cessieux mercredi après-midi, les mains dans le falzard, vont affaire conclue. Lourdement choqué, Christina Cordula est immédiatement élitreuillée au CHU de Créteil. 22h43, il y a zéro suspense, on sait que Tyson Fury va le défoncer. Je sais que c'est nul, je sais que c'est fake, je sais que c'est vulgaire et pourtant ça marche parce que je suis comme un gosse. C'est le dernier moment d'incertitude de ce combat. Une heure après, c'est plié, Tyson Fury est trop fort. 9 petites semaines d'entraînement après 8 mois de YOLO total et il est intouchable. Son coup d'œil, sa précision, Fury est unique. Unique au monde et probablement unique dans l'histoire. Son bras avant, c'est un marteau, son bras arrière, un train de marchandises. Il a fait passer l'un des 10 meilleurs boxeurs du monde pour un enfant. Humiliation en règle, l'arbitre arrête le massacre dans la 10e. Alors je sais... Tyson Fury est dégueulasse, il se sable comme un blair, il est peut-être totalement débile, mais je l'aime. J'aime son style, j'aime ce qu'il est, j'aime ce qu'il fait, j'aime l'imprévisible qu'il génère. Personne ne sait à quel moment il va faire n'importe quoi, et ça fait de chacune de ses sorties un événement, chacune de ses prises de parole, un potentiel petit morceau d'histoire. Et hier, le n'importe quoi, et ben c'est après le combat, cloche finale, et là... Paf, orgie, ça se termine dans une chier de laser et de gros mots. Il y a que 90 mecs sur le ring et Fury convoque les gens sur la scène en hurlant dans un micro. Ça se termine dans un face-to-face hyper gênant entre lui et Usyk, le méga champion ukrainien. Et c'est n'importe quoi. Fury, il éructe, il hurle. Le Gypsy King est en feu, il tient le micro alors qu'il a encore ses gants et il dit « Je vais te botter le cul, tu seras le prochain petit catin ». Usyk en face, il se marre, mais clairement, il parle pas anglais, il capte rien. Et sur scène, bon, il en profite quand même pour appeler son agent pour organiser le combat en direct. C'est du show à l'américaine, sauce gitane. C'est dingue. Le problème, c'est que Joe Joyce, le champion olympique de Londres, est candidat à une ceinture aussi sur le ring. Et c'est un moment hyper bizarre parce que personne sait ce qu'il fout là. Il y a Tyson qui lui tend le micro, sa gueule de partout. C'est la réunion des Jojo, quoi. Alors, je me suis demandé pourquoi j'aimais Tyson Fury. Et il y a pas vraiment de raison. C'est pas le genre idéal.
Un peu la même.
Un peu, ouais, c'est vrai. Mais je m'inspire des meilleurs comme toi, Christophe. Il est pas vraiment le genre idéal. Il a été contrôlé positif. Il a été un peu alcoolique et totalement deb. Et puis j'ai compris. J'ai compris grâce à une phrase de Léo Ferré. La plupart fils de rien ou bien fils de si peu. Eh bien, Fury, c'est le triomphe impossible d'un cassos de Manchester que rien ne dessinait ni au succès ni à la gloire. Il a plus rien à prouver, plus rien à gagner. Pour justifier son retour, d'ailleurs, il disait, en fait, moi, je ne sais pas comment m'arrêter. Une phrase terrifiante de sincérité. Et c'est ça qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est que quelque part, il réussit là où la plupart des humains échoueront. Il est dingo, mais il est lui-même. Et c'est pour ça que je l'admire mieux. C'est pour ça que je l'aime.
Merci beaucoup, Pierre Amiche, pour cet homme heureux autour de Tyson Fury. Est-ce que vous aussi, ce retour de Tyson Fury vous rend heureux? Ou un brin peut-être pathétique, je ne sais pas. Heureux ou pas heureux? Christophe Cessieux.
Heureux, heureux, bien sûr.
Heureux. Sarah Pitkowski.
Heureux parce qu'on aime les débordements dans la boxe. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport. C'est les dérapages et tout ce qui se fait autour du ring, en fait.
Ok, heureuse. Pascal Duprat.
Heureux et admiratif.
Admiratif, ok, j'arrive dans quelques instants. Stephen Brun.
Heureux également.
Heureux également. Christophe, tu commences.
Oui, c'est les mêmes raisons que Pierre. C'est vrai que ce mec, c'est en plus d'être un formidable boxeur, parce que comme ça, arriver avec si peu d'entraînement et mettre à mal Chisora, franchement, il y a très peu de boxeurs dans le monde qui sont capables de faire ce genre de choses. Ses comebacks répétés après à chaque fois des périodes où il se met la tête à l'envers pendant des semaines à boire de la gaipe Pirinha et à faire la fête avec d'autres produits illicites, arriver à se retrouver à ce niveau-là, chapeau. Et puis, franchement, ce showman, il est dans la lignée des plus grands chambreurs de l'histoire de la boxe, les Mohamed Ali et autres. Il est vraiment...
voilà. Et alors c'est sûr qu'il a peut-être moins bon goût que pouvait l'avoir Cassius Clay ou Mohamed Ali, mais voilà, on est dans une période différente et la boxe a besoin de ce genre de mec, a besoin de lui, et j'ai hâte de voir ce combat face à Usyk. On verra s'il fait autant le malin face à Usyk, parce que là c'est du très haut niveau l'Ukrainien.
Mais lui ne peut pas s'arrêter, il le dit, je n'y arrive pas, et c'est même, on va dire, là, pathologique.
Ouais.
Bon, ça arrive évidemment chez la plupart des grands sportifs qui ont du mal à raccrocher, certains le font définitivement,
boxeurs surtout,
d'autres reviennent, et c'est un peu pathétique, mais c'est bizarre. Avec Tyson Fury, on a envie qu'il soit toujours là. On a même
Il fait pas des stops très longs d'un autre côté. Hein. Il n'arrête pas pendant 2-3 ans comme d'autres ont fait avant lui. Hein.
Là où je suis admiratif, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il est sincère quand il dit qu'il voudrait s'arrêter, mais il peut pas. Donc moi, c'est un showman, mais j'ai l'impression qu'il c'est un showman qui est désarmant de sincérité parce qu'il a pas d'éducation, parce que voilà, il parle comme ça vient, et surtout il est incroyable, il est exceptionnel. Il y a personne qui arrive à le toucher. Il a beau le chambrer tout le monde, et il les défonce tous, les uns après les autres. Donc pour cette raison-là, je suis admiratif et heureux de cet éternel, on va dire, retour comeback de ce champion hors norme.
Sarah Pitkowski.
Je pense que tout a été dit. Après, je regarde pas les combats de boxe, mais j'adore les chroniques de.
Je te verrais bien dans une réunion de boxe comme ça, là, avec tous ces cassos au milieu, là. Je me rappelle un jour, on avait amené Sarah.
Il n'y a pas que les cassos quand même en fait.
Mais là,
ce que racontait Pierre avec ses mecs déguisés, avec des costumes incroyables.
J'ai eu peur que tu me mettes sur le ring avec la pancarte, quand même, parce que là,
je dis pas que tous les gens qui vont voir la boxe sont des cassos.
On va juste isoler
tout ça. Défoncer Christophe après l'émission.
J'aimerais bien te voir à la boxe avec tous ces cassos.
J'allais à la boxe. Moi, mon grand-père m'a amené à la boxe quand j'avais 6-8 ans. Il était speaker sur le ring, mon grand-père. Donc je peux te dire que moi.
Ah, c'était Michael Buffer?
Non, c'était pas le même niveau, mais dans la salle Lérite à Nice, on allait là quand j'étais tout petit. Et j'étais fasciné par cette ambiance. Souvent, t'avais des bagarres entre spectateurs à l'arrière qui étaient pas contents parce que l'un était pour l'un et l'autre pour l'autre. Ça fumait, mais tu peux pas savoir. Mais il y avait une ambiance, il y avait une atmosphère vraiment particulière. Je dis pas que c'est des cassos, mais il y avait vraiment. Mais vous y êtes déjà allé voir des combats de boxe?
Dans les combats de boxe, t'as les deux extrêmes. Ceux qui sont proches du ring et qui sont les nantis, les gens.
Ouais.
Bah, tu vois, c'est aussi
t'as des stars de cinéma, t'as des voyous, t'as des flics. C'est un mélange de la société qui est absolument complètement hallucinant. Et je pense que c'est beaucoup plus un mélange que, par exemple, aujourd'hui, les matchs de foot où t'as de plus en. Enfin. Je parle de la capitale où là t'as vraiment c'est la jet set désormais qui se déplace dans les stades de foot, alors que la boxe reste encore un mélange entre les différentes populations.
Aux États-Unis, on voit ces images où tu vois les grandes stars, les people qui sont là autour du ring. Je peux faire ma promo ou pas?
Bien sûr, évidemment.
Ouais, mais parce que
t'as
je crois
qu'en fait. T'as un concert?
Tu sors un album.
De quel boxeur, je sais même pas.
Mec de Christian Mbili qui va combattre.
Voilà,
un
génie, un super boxeur.
17
décembre. Le meilleur boxeur français.
Et Chatelieu, lui. Bilibili.
Ouais.
Alors attends,
va lui faire des bilibili, tu vas voir.
Tu peux nous redire, en fait, vraiment ta promo, parce que tout le monde parle en même temps.
Oui, c'est que je m'occupe du combat de Christian. Enfin, la communication du combat de Christian Mbili, samedi 17 décembre à Nantes.
Ok,
voilà.
Quelle salle à Nantes? À Beaulieu?
Non, pas à Beaulieu.
L'arena Trélazé?
Non, Trélazé, c'est à Angers, c'est okay. Pas à Nantes.
Pas Trélazé, à Rosé?
Oui, c'est ça.
Ah, ok.
Ok, c'était presque la promo.
Trélazé, non, c'est à Angers.
Ouais. Non, en fait, moi, le côté sportif m'intéresse, parce que ce combat contre Usyk, même si on nous dit qu'il est là, j'espère qu'il est vraiment là, qu'il est vraiment organisé, ça pourrait permettre à Tyson Fury d'unir les ceintures, parce qu'on attend ça avec impatience. Après, moi, je m'interroge sur que va devenir ce garçon quand tu auras plus la boxe. Et ça peut être inquiétant. Ça peut être inquiétant quand on entend ses propos, quand on sait dans les excès où il peut aller, parce qu'à un moment donné, il y aura plus la boxe. Je veux bien croire que la boxe, et notamment chez les poids lourds, est un sport qui te permet de durer très tard, 40, 42, 43, surtout avec un gabarit comme ça, peut-être que tu peux. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Et j'espère qui aura du monde autour de lui, parce que j'ai pas envie d'entendre que à 55 ou 60 ans il s'est foutu en l'air parce qu'il y a plus cette adrénaline, il y a plus la passion de la boxe, il y a plus pouvoir retourner sur le ring. Donc attention à l'après boxe pour Tyson Fury parce que ça m'inquiète.
On en rigole, mais ça peut être dramatique. Tu as raison, et c'est vrai que c'est un tel champion, un tel homme qui a envie de dire toujours tout ce qu'il pense, et il le dit. Hein, il est toujours très sincère dans ses interviews. En tout cas, on guettera et on en reparlera dans cette émission, évidemment, de Tyson Fury. Merci beaucoup à Pierre Amiche pour son papier. 10h41, on se retrouve dans quelques instants. Le zapping du Mondial, on va évidemment reparler de Coupe du Monde, avec notamment Lionel Messi qui guide les siens vers les quarts de finale. L'Argentine, à tout de suite sur
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Avec tous ces cassos au milieu, là.
Jean-Christophe Drouet.
10h44, on est de retour sur RMC avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Stephen Brun. Journée exceptionnelle sur RMC, le 8e de finale de la Coupe du Monde France-Pologne. C'est à 16h. On prendra l'antenne des 15h pour tout savoir avec les compositions d'équipe. Toutes les dernières informations autour de l'équipe de France. D'ailleurs, on retrouvera l'un de nos envoyés spéciaux, Loïc Braillet, à partir de 11h. Et à 11h également, le bras de fer des GG concernant Hugo Lloris qui va honorer sa 142e sélection en équipe de France. S'il revient à égalité d'un certain Lilian Thuram. Légende ou pas légende de notre histoire, de notre équipe de France, la grande histoire, ce sera un 3 contre 2 sur ce débat qui concerne Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France à la longévité incroyable. Tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping de la Coupe du Monde.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non, si tout le monde s'en fout. On zappe l'information. La première à vous donner, c'est Lionel Messi qui guide les siens vers les quarts de finale. On s'en fout pas, Stephen Brun.
Je ne m'en fous pas.
Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Sarah.
Je m'en fous pas, mais je vais écouter les autres.
Ok, Christophe Cessieux.
Aïe.
L'Argentine s'est imposée 2-1 face à l'Australie et Lionel Messi, vous avez certainement vu cette statistique, a atteint le cap des 1000 matchs en carrière et il en a profité pour inscrire son 789e but, une performance exceptionnelle. Et pour la petite histoire, peut-être la grande aussi, et c'est peut-être important pour lui, il a inscrit le premier but de sa carrière dans un match à élimination directe en Coupe du Monde. Lionel Messi au micro de Florent Germain après la rencontre. Messi sur cette ferveur, évidemment, dans le stade et en Argentine autour de l'Albicéleste.
Ce sont vraiment des sensations incroyables. C'est magnifique de partager ces beaux moments de joie avec eux. On sait l'effort que cela représente pour tous ces gens de venir ici pour assister à chaque match et comment les gens en Argentine en profitent aussi. Toute l'Argentine voudrait être ici, mais ce n'est pas possible. Cette union qui existe depuis quelques jours ici est très belle. J'ai dit qu'on a eu peu de temps de repos, 3 jours seulement, mais de notre côté, on avait hâte et on était excités de rejouer devant ce peuple parce que c'est incroyable comment ils vivent ces matchs, cette passion, cette énergie, cette joie, et on les en remercie parce que c'est incroyable.
Lionel Messi qui a donc guidé les siens pour cette qualification. Stephen Brun.
Déjà il y a un chiffre qui est important, je pense marquant pour le peuple argentin, c'est que c'est son 9e but en Coupe du Monde. Il passe devant Diego Maradona qui en avait mis 8. Donc même s'il lui manque une Coupe du Monde à Lionel Messi pour éventuellement, on fera un débat, est-ce que Messi a dépassé Maradona? Non, mais j'ai trouvé Messi très fort hier, meilleur joueur du match. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on m'avait vendu cette équipe d'Argentine un petit peu moins Messi dépendante et qu'il y avait des joueurs, et tu t'aperçois hier, c'est lui qui fait la pluie le beau temps, Lionel Messi. Il est monstrueux, c'est lui qui provoque ce coup franc. Et puis, j'ai l'impression que Messi, alors peut-être un peu tard dans sa carrière, devient un vrai leader. Avant, il a toujours été un petit peu dans la discrétion, un petit peu un taiseux, il laissait parler son talent sur le terrain.
Il a été contesté aussi sur ses performances en Argentine.
Exactement, et là j'ai l'impression qu'il fait l'unanimité parce qu'il est encore bon et parce qu'il y a ce leadership qui prend un petit peu la place. Alors il a quoi, 33, 34 ans, c'est certes un peu tard, mais je trouve que c'est la vraie évolution de Lionel Messi.
Ok, je dirais 35, mais on va vérifier évidemment. Ouais. Pascal Duprat, sur cette qualification et ce match, surtout la deuxième période, il faut bien le reconnaître, incroyable de Lionel Messi.
Ouais, ce qui est incroyable, c'est qu'il marche les trois quarts du temps.
C'est pas nouveau, ça.
On a l'impression qu'il aimante le ballon. On a l'impression, souvent, on dit, tiens, il a de la chance sur le but qu'il marque. C'est consécutif à une mauvaise passe, une mauvaise remise, ça lui revient dans les pieds, dans la surface. Là où il excelle, il frappe entre les jambes d'un défenseur, et il marque. seules et premières actions des Argentins de la première mi-temps. Donc il marche sur l'eau, mais c'est parce que c'est un génie. Ça c'est souvent le cas. Et puis aussi c'est tellement remarquable les supporters qui chaque fois qu'ils touchent le ballon l'adulent, l'encouragent. Ils sont comme des fous les Argentins. Donc pour ça c'est exceptionnel. Par contre moi le bémol c'est que pour aller au bout faut jouer 7 matchs. Et Messi il sort jamais. Messi il est toujours sur le terrain. Et je voudrais pas représenter un oiseau de mauvais augure pour les Argentins, mais j'ai peur qu'à un moment donné il y ait une baisse de régime. Et j'ai peur qu'à un moment donné Messi soit victime d'une blessure. Ça serait tellement préjudiciable pour
ils vont peut-être payer la défaite initiale contre l'Arabie Saoudite et que Messi était obligé de jouer
le troisième match. Pascal, moi je te rejoins, je me suis posé la question à 2-0, je me suis dit bah tiens, est-ce qu'il va faire sortir
il
Messi
le sort pas,
mais oui, mais heureusement ça. Parce que il y a ce 2-1 qui vient de nulle part.
Après il marche pendant l'essentiel du match aussi.
Moi je pense que une fois que la décision bon, c'est facile à dire, je fais le vieux con de coach, je fais ce que je déteste quand je suis modeste entraîneur, c'est ceux qui parlent alors qu'ils ne connaissent pas. Mais je pense que Messi, il faut l'économiser à un moment donné. Parce que il est tellement à fond pour sa sélection, il est tellement encouragé. À la fin, il c'était le seul qui gardait le ballon, et il driblait, il a fait un spectacle exceptionnel.
Là, t'es en train de dire qu'il faut le ménager. Tu vas le ménager comment là?
Tu
peux plus maintenant. Donc j'ai peur qu'il ait le coup de pompe.
D'accord.
Et que les résultats de l'Argentine s'en ressentent.
Ou alors, il faut que les mecs se mettent à son niveau, parce que Messi, à un moment donné, il mord une galette en or à Lautaro Martinez, qui vendange un truc incroyable.
Il faut aussi que le mec de confiance incroyable ce joueur. Martinez, par rapport à ce qu'il fait en Italie.
Je crois que sa perte de confiance, elle est contre l'Arabie Saoudite, parce que il met deux buts hors jeu, finalement, de 1-0, et je crois que ça lui a fait mal pour être de la compète, mais il va falloir que les mecs se mettent au niveau de Messi.
Et après, Stéphane, juste, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la production d'ensemble des Argentins. Je pense que c'est un collectif, avec la Grinta,
comme
qui
la Pologne,
joue tout pour Messi, tout autour de Messi, d'accord. Mais ils sont ultra dépendants de Messi, mais on peut que les encourager à l'être, parce que si t'as Messi dans ton équipe, ben, tu t'en remets à lui. Ça, c'est normal, c'est une étoile.
L'Argentine, la principale favorite désormais, Pascal, non?
Non.
La France.
Toujours la France.
Oui, non, mais
le
si
Brésil,
tu laisses de côté ton cœur français,
la logique par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce que les équipes présentent. Et puis le Brésil, parce que le Brésil est capable de jouer sans Neymar, par contre. Donc c'est ça la.
Alors que l'Argentine n'est pas capable de jouer sans Lionel Messi. Le quart de finale, c'est vendredi soir face aux Pays-Bas. Et l'autre héros de cette rencontre, c'est Emiliano Martinez, le portier de la sélection albicéleste, qui a détourné magnifique parade dans les dernières secondes de ce match, qui a failli envoyer cette rencontre en prolongation. Et Otamendi, l'un des défenseurs, lui a dit après le match: voici ce que je lui ai dit quand il a arrêté ce ballon. Je t'aime à la folie. Ta parade est incroyable.
Il l'a pas fait comme ça. Il l'a fait en mode Lara Fabian.
Je t'aime, ta parade est incroyable. C'était vraiment magnifique.
Ça part vraiment en brioche cette émission aujourd'hui.
Deuxième information dans le.
C'est pas dans le conducteur du WhatsApp qu'il fallait chanter. Hein.
Ah oui, c'est vrai que c'était pas dedans.
Faudra rajouter que je me prépare.
Ah, une information primordiale. Deuxième information. Emmanuel Macron qui donne son prono, le président de la République, pour France-Pologne. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Non, on s'en fout pas.
Stephen Brun.
Je m'en fous, il a dû mettre un but de Guendouzi, lui, non?
Non. Il a dit que le troisième but, il savait pas de qui c'était.
Attends,
je m'en fous.
D'accord, Pascal Duprat.
Bah, moi, je m'en fous. Ça dépend du prono.
Content. Bah, je vais vous le dire, si ça vous intéresse, en tout cas pour Christophe. Dans un entretien au Parisien, donc le président de la République a confié qu'il suivait avec attention la prestation des Bleus. D'ailleurs, il ira au Qatar si toutefois les Bleus sont qualifiés pour les demi-finales. Et donc voici le prono de notre président. Je pense qu'on gagne 3-1. C'est un vrai pari sportif. Hein, ce sera à partir de midi. Ouais. D'ailleurs, on calculera la cote. Lewandowski va marquer un but, comme Mbappé ou peut-être Giroud, qui a envie d'entrer dans cette histoire. Et Joker pour le troisième but français. Voilà, on va calculer la cote. Joker, on vous la donnera.
Il joue le Joker.
Joker, il est très bon d'ailleurs. Il est souvent remplaçant, mais il rentre comme
Joker.
Joker. Voilà.
Mais il fait une petite analyse quand même des prestations de l'équipe de France. Il dit aucune équipe au monde a tout à la fois cette fraîcheur et cette expérience. On a des seniors comme Giroud et Grisou qui montrent qu'ils en ont encore sous la chaussure. Un génie avec Mbappé qui prouve qu'il est toujours au grand rendez-vous. Puis on a des jeunes, Hernandez, un latéral qui s'est monté très haut. C'est un collectif remarquable. Alors je sais pas si c'est une analyse toute personnelle, s'il a regardé les matchs
et a pris des notes.
Je sais qu'il aime bien le foot, mais avec les politiques, on sait jamais. On sait jamais s'ils sont vraiment eux qui ont écrit ces trucs-là ou s'il a un conseiller sport qui lui dit voilà, il faudrait que tu dis ça.
À l'Élysée, des bons conseillers sport, ça se saurait quand même, parce qu'ils ont souvent à côté de la plaque.
Je me rappelle moi d'un garçon qui s'appelle Pierre-Louis Basse qui a été conseiller sport de François Hollande. Et si tu veux, Pierre-Louis en matière de connaissance du football,
mais là,
du sport en général,
on n'est pas au courant qu'il y ait un conseiller sport dans les alentours.
Un mec qui s'appelle Pierre-Louis.
Non. Bonne question. Oui, les copains, on va juste vous donner cette cote quand même parce que c'est.
Tu devrais vraiment faire. C'est plus l'almanac Vermeau, c'est l'almanac Brown. C'est magnifique. Je pense que tu pourrais vendre des trucs. Hein.
La cote.
Si je suis bien conseillé. Si Pierre-Louis me conseille.
S'il vous plaît, les copains, écoutez-moi un petit peu. Van sur van. Écoutez-moi. La cote, c'est très important. La cote de notre président, 3-1. But de Lewandowski, Mbappé ou Giroud, c'est coté à 30. Voilà, 10 euros.
Tu penses qu'il est habillé
Je pense qu'il a mis un. Pas du tout. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Neymar qui a repris l'entraînement. On en parlait déjà hier. On sort. Attendez, je vois Christophe souffler.
Mais non, si ça t'intéresse tous les jours, pas, tu vas nous mettre Neymar. Laisse-le revenir sur le terrain, quoi. Okay. T'étais complètement.
Bah, attention, le
dingo. Il est complètement dingo.
Tu aurais pu te demander quand est-ce qu'il
nous fait un zapping sur chaque joueur du Paris Saint-Germain, quand même, là, depuis tout à l'heure, là.
Plus le président de la République, pour faire un petit
plus le président, ouais.
J'ai un petit truc sur Kylian Mbappé juste après ça, t'intéressait. Donc on s'en fout, j'ai compris. Pascal Dupraz, t'intéresse ou pas?
Non, moi je m'en fous pas.
Ok.
Non.
Je
m'en foutais hier, je suis ravi pour lui, mais je m'en fous aussi aujourd'hui.
Selon plusieurs médias brésiliens, pour toi, mon cher Pascal, Neymar a repris l'entraînement avec ballon hier, à deux jours du huitième de finale. Maintenant, on est à la veille, évidemment, de ce match face à la Corée du Sud. L'attaquant qui veut tout faire pour être présent, pour être dans le groupe pour ce huitième de finale. Évidemment, la question qu'on se pose, c'est prise de risque ou pas, Pascal?
Oui, non, il ne doit pas y avoir de prise de risque. Le staff médical des Brésiliens et certainement de très grande qualité. Non, mais moi, ce que je voulais juste dire quand tu parles de Neymar qui va revenir donc à la compétition, c'est que chacun d'entre vous doit mesurer la chance que le football français a d'avoir Neymar, Mbappé et Messi dans la même équipe. L'un des trois va probablement gagner la Coupe du Monde. Vous vous rendez compte de la chance que nous avons, la Ligue 1 française a ces trois joueurs-là dans la même équipe. Trois stars, méga stars du mondial.
Ouais, mais Christophe s'en rend pas compte. Il a Dolberg et il est content. Donc bon.
Non, on a plus Dolberg.
Non, il est plus là.
Hein, il est plus là. On a plus Dolberg. Il faudrait que tu t'intéresses à d'autres équipes que le Paris Saint-Germain quand même.
Cette chance, non mais.
Est-ce que vous avez déjà eu Dolberg de toute façon? On peut se poser la question.
Le fantôme.
Vrai débat. Bref. Ok, on va passer à autre chose. Merci les copains. À partir de 11h, on reviendra sur notre équipe de France. Hugo Lloris, légende ou pas légende de l'histoire des Bleus avec cette 142e sélection.
Voilà un Niçois.
Ah,
Hugo Lloris.
Je crois que tu es dans la team.
On va pas faire une salade.
Christophe, je vais te défoncer.
T'es d'un haut niveau.
Il est dans la team. Pas les gens, Christophe Cessieux.
Il me bluffe, le Steve. Vivement que la Coupe du Monde se termine. Je pense qu'il aille voir des matchs de basket parce que là, c'est plus possible.
C'est une légende pour Pascal Dupraz. Ce sera le bras de fer des grandes gueules du sport. Restez bien avec nous. Journée magnifique sur RMC France-Pologne à partir de 16h, 8e de finale du Mondial. À tout de suite.
Gueule des sports.